Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
De découvrir une affaire de résistance à la guerre d'Indochine qui s'est déroulée en France dans les années 50. J'ai souhaité aborder cette partie de l'histoire française car je pense qu'elle reste encore trop peu médiatisée. En effet, il existe peu d'ouvrages et de traces dans notre histoire contemporaine de cette guerre coloniale. Les ouvrages que j'ai pu trouver sur la guerre coloniale des Français en Indochine restituent pour la plupart un discours héroïque dans lequel les combattants français sont présentés comme des aventuriers partis à l'autre bout du monde pour civiliser des sauvages. Je le regrette, car beaucoup de Français s'étaient opposés à cette sale guerre. Cette émission sera donc une forme d'éloge à la résistance que de nombreux Françaises et Français ont manifestée face à la politique coloniale française de l'époque. C'est à leur mémoire que je dédie cette émission. Tout est parti d'un poème de Jacques Prévert, grâce auquel j'ai découvert l'affaire dite « Affaire Henri Martin ». Entendez-vous, gens du Vietnam ? Entendez-vous ? Entendez-vous, gens du Vietnam ? Entendez-vous dans vos campagnes, dans vos rizières, dans vos montagnes ? Oui, nous les entendons. Ces êtres inférieurs, architectes, danseurs, pêcheurs et mineurs, jardiniers et sculpteurs, tisserands ou chasseurs, paysans et pasteurs, artisans et dockers, coulis navigateurs. Ces êtres inférieurs ne savaient haïr que la haine, ne mépriser que le mépris. Ces êtres inférieurs ne craignaient guère la mort tant ils aimaient l'amour, tant ils vivaient la vie, et leur vie quelquefois était belle comme le jour, et le sang de la lune courait sur les rizières, et le jour lui aussi était beau comme la nuit. Il y avait aussi la faim et la misère, les très mauvaises fièvres et le trop dur labeur. Mais le jour était beau comme la nuit. Le soleil fou dansait dans les yeux des jeunes filles, et la nuit était belle comme le jour. La lune folle aussi dansait seule sur la mer. La misère se faisait une beauté pour l'amour. Et les enfants, en fait, malgré les mauvais temps, jouaient avec les bêtes en pourchassant le vent. Mais il y avait aussi, et venant de très loin, les monopolitains, ceux de la métropole et de l'appât du gain, négociants, trafiquants, notables, résidents, avec les légionnaires, les expéditionnaires et les concessionnaires et les hauts commissaires, et puis les missionnaires et les confessionnaires, venus là pour soigner leurs frères inférieurs, venus pour les guérir de l'amour de la vie, cette vieille et folle honteuse maladie. Et cela depuis fort longtemps, bien avant la mort de Louis XVI, bien avant l'exploitation et l'exportation de la Marseillaise. Et la misère était cotée en bourse, sous le couvert, et dans les plis et replis du pavillon tricolore. Et puis une dernière fois, ce fut encore la Grande Guerre. Ces nouvelles financières et ces hauts faits divers, comme elle était mondiale, des Français déclassés, grands caïds du Vietnam, avec les chefs du gang de l'Empire du Milieu, se partageaient déjà, comme barons en foire, les morceaux du gâteau des lambeaux de pays, avec l'assentiment de Sa Majesté Bao Dai. Soudain sont emportés dans les rapides de l'histoire leurs bateaux de papier-monnaie, et comme dans les livres de classe importés de la métropole, on proclame au Vietnam les droits de l'homme. Quoi ? Ces gens qui crient famine sous prétexte qu'ils n'ont pas grand-chose à manger, et qui, s'ils étaient mieux nourris, crieraient encore que c'est mauvais. Nous savons trop bien qui les mène et où on veut les emmener. Et les grands planteurs des VA, les seigneurs de la Banque d'Indochine et les grands charbonniers du Tonkin en appellent sans plus tarder à la 4e République empirique, apostolique et néo-démocratique. Alors la fille aînée de l'Église, son sang ne fait qu'un tour. Un pauvre capucin et grand amiral des galères arrive à fond de train par la mer. Et après avoir fait les sommations d'usage, « Ceci est mon corps expéditionnaire, ceci est votre sang », à coups de droit canon, il sermonne à Haïphong. Des anges exterminateurs accomplissent leur mission et déciment la population. Simple petit carnage, présage dans le ciel, sévère mais salutaire leçon évoque la galère. Après avoir bien joué son beau rôle dans l'histoire, l'amiral se retire dans sa capucinière en dédaignant la gloire. Et le temps fait semblant seulement de passer, le temps du halte-lard reste là l'arme au pied, le temps des cerisiers en fleurs arrachés à la terre et volatilisés. Et malgré l'inquiétante menace de paix, les gens du trafic des piastres fêtent toutes les fêtes et sans en oublier, et l'on réveillonne à Noël comme au bon vieux pays à Saïgon, à Hanoï. Et l'on fête l'armistice et la libération comme le 14 juillet, la prise de la Bastille, sans façon. Cependant que très loin, on allume des lampions au napalm sur de pauvres paillotes, et des femmes et des hommes, des enfants du Vietnam, dorment les yeux grands ouverts sur la terre brûlée, et c'est comme Oradour. C'est comme Madagascar et comme Guernica, et c'est en plus modeste tout comme Hiroshima. Et le temps reste là sur le qui-vive, le temps du halte-là, le temps du désespoir et de la connerie noire, et la grande main d'œuvre jaune caresse tristement ses rizières, ses forêts, ses outils et ses champs, son bétail affamé. Des voix chantent. Nous n'aimions pas notre misère, mais avec elle nous pouvions lutter. Et quand parfois elle touchait terre, sous cette pauvre terre nous pouvions respirer, vous. Qu'en avez-vous fait? Elle était lourde, notre misère, vous le saviez. Vous en avez déjà tiré plus que son pesant d'or, fou que vous êtes. Que voulez-vous encore? Aux voix de la main-d'œuvre jaune répondait une voix d'or, une voix menaçante et radio-diffusée. Et la main-d'œuvre se serrait, la mort mécanique avançait. Sourde mais claire, des voix chantées. Si la petite main-d'œuvre jaune et la très grande main d'or blanc, coudes sur table et poings serrés, se rencontraient, elle ne tiendrait pas longtemps en l'air. La blême menotte d'acier, tachée de sang caillé. Longtemps en l'air, c'est une façon de parler, et la voix d'or hurlait, sur un ton aphonique, délicat, cultivé, feu à volonté, et les hommes de main d'or, recrutés, éparqués, et fraîchement débarqués, venant rétablir l'ordre, mitraillés, incendiés. Mais la main-d'œuvre jaune, elle aussi, se mécanisait, tristes et graves, mais résignées, des voix chantées. Que voulez-vous, on nous attaque à la machine, se défendre à la main ne serait pas civilisé, on nous traiterait encore de sauvages et d'arriérés, on nous blâmerait. Et l'empereur Baudai partait en permission sur la côte d'Azur, c'est comme cela que les journaux annonçaient ses visites fébriles et affairées. Là-bas, sur le théâtre des opérations bancaires, le corps expéditionnaire n'avait plus les mêmes succès, et dans de merveilleux décors tombaient les pauvres figurants de la mort. Seuls les gens du trafic des piastres criaient bis et applaudissaient. Ici on criait encore, ailleurs on criait assez, plus loin on criait la paix, et des messieurs du meilleur monde fort discrètement s'éclipsaient. Tout cela n'était pas une petite affaire. Les grandes compagnies internationales des monopolitains alertaient leurs meilleurs experts, leurs plus subtils tacticiens. L'un d'eux, un trépidant, infatigable petit mégalomane d'une étourdissante et opiniâtre médiocrité, et qui s'était couvert de gloire fiduciaire pendant la Seconde Guerre mondiale sur la route coupée du fer dans la plaie, atterrit en coup de vent au Vietnam. Et en moins de temps qu'il ne mit un peu plus tard à l'écrire, trouva la solution de cet interminable conflit. Pour arrêter ou améliorer la regrettable et nécessaire guerre du Vietnam, il suffit, c'est tellement simple, de mettre le Vietnam dans la guerre. Et résumant cette solution en un slogan d'une indéniable efficacité. Virilité, rapidité. Il reprend l'avion, non sans avoir donné de très judicieuses précisions. Des Français et des Vietnamiens se faisaient tuer pour protéger la vie et la fortune des gens qui ont assez d'immenses richesses, pour ne parler que de Chinois de Saïgon et de Vietnamiens d'Hanoï, et tout cela aux frais du contribuable français. Dès lors, une seule solution, créer une armée proprement vietnamienne assez puissante pour établir l'ordre, puisque c'est au Vietnam, Tonkin, Hanam, Cochinchine, pays de 25 millions d'habitants, que se fait la guerre. C'est par la création de cette armée nationale que le peuple vietnamien prendra pleinement conscience de son indépendance. Il faut que cette guerre, où se joue l'indépendance du Vietnam, les libertés et la fortune de ses citoyens, soit considérée par lui comme sa guerre. Il faut que ses élites cessent d'être attentistes, soucieuse de ne pas se compromettre dans l'hypothèse d'une victoire des communistes. Il faut que ce soit une guerre faite par le Vietnam avec l'aide de la France, et non une guerre faite par la France avec l'aide du Vietnam. C'est d'abord un état d'esprit à créer, celui que ce vieux lion qui est le président Syng Man Rhee a su créer en Corée. Et ce sont des réformes profondes des affaires. Pourquoi gardez-vous en prison, et depuis déjà plusieurs années, un marin? Il s'appelle Henri Martin. Jacques Prévert, 1952. Extrait de La pluie et le beau temps. Laissez-moi à présent vous donner quelques éléments historiques pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte politique dans lequel ce poème a été écrit. La guerre d'Indochine ou guerre d'indépendance d'Indochine, également désignée au Vietnam comme la guerre de résistance anti-française ou encore la première guerre d'Indochine dans le monde anglo-saxon, est un conflit armé qui se déroule de 1946 à 1954 en Indochine française ou Fédération indochinoise, actuel Vietnam, Laos et Cambodge. Opposant l'Union française au Viet Minh, organisation politique indépendantiste et paramilitaire vietnamienne, créée en 1941 par le Parti communiste vietnamien, le conflit est précédé par une reconquête française des terres occupées par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, débutée l'été 1945, marquée par une terrible famine dans le Nord qui fit 1 million de morts selon le gouverneur général Jean de Coux, le double selon Ho Chi Minh. Les Japonais ayant réquisitionné la récolte du Sud qui traditionnellement comblait la jointure entre récoltes au Nord. Le conflit a connu deux phases historiques. Entre 1946 et 1949, une lutte de décolonisation sous forme de guérilla, puis une guerre de plus en plus directe et frontale de 1949 à 1954 avec l'aide matérielle et logistique des Américains, face à un ennemi qui a mis sur pied une véritable armée conventionnelle et formée avec le soutien de la Chine communiste depuis 1949. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le conflit avec l'Empire du Japon aboutit à la désorganisation complète de l'administration coloniale française en Indochine. Le Viet Minh, mouvement nationaliste fondé par le Parti communiste indochinois, en profite pour prendre le contrôle d'une grande partie du territoire vietnamien à la faveur de la révolution d'août qui aboutit à la proclamation par Ho Chi Minh, chef du parti, de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, CEFEO, reprend progressivement le contrôle de l'Indochine. L'État français repense ensuite le statut de la fédération au sein de la nouvelle Union française. Un conflit larvé se poursuit avec le gouvernement indépendantiste vietnamien, tandis qu'une solution diplomatique est recherchée en vain lors de la conférence de Fontainebleau. En novembre 1946 éclate l'affaire de Haïphong. Ce sont des affrontements liés à un contrôle douanier. Le bombardement du port par l'artillerie de l'armée de terre française et ses trop nombreuses victimes civiles. Cet épisode sera considéré par les historiens comme le début de la guerre et à sa suite, plusieurs années de guérilla opposent alors le corps expéditionnaire à l'armée populaire vietnamienne, force armée du Viet Minh, qui passe progressivement à une guerre de mouvement de plus en plus audacieuse. Lorsqu'en septembre 1945, Ho Chi Minh proclame à Hanoï l'indépendance de son pays à la suite de la révolution d'août, la politique française hésite entre la reconquête ou la conciliation. Le voyage d'Ho Chi Minh en France, été 1946, permet d'envisager un compromis. Mais chaque camp se prépare à l'affrontement. Le 10 septembre 1946, les Français reprennent le service des douanes alors que cela devait être négocié. L'état-major français, sur place, obéissant aux ordres de l'amiral Georges Thierry d'Argentlieu, promu vice-amiral d'escadre en mars 1946, multiplie les provocations. À Haïphong, le 20 novembre 1946, les Vietnamiens s'opposent au contrôle douanier par les Français d'une jonque qui fait de la contrebande en tirant sur les Français. L'affrontement dégénère, mais un cessez-le-feu est déclaré. On revient au statu quo antebellum. L'objectif est de profiter de la situation pour améliorer la position française et mettre un terme à l'indépendance que le Vietnam était en train d'acquérir. Le 23 novembre 1946, à 9h, un ultimatum de 3/4 d'heure est adressé aux Vietnamiens et l'offensive terrestre française commence sur Haïphong. Lorsqu'elle rencontre une résistance, le colonel Desbaisse, sur les instructions du général Valuy qui lui a demandé de « donner une dure leçon à ceux qui nous ont traîtreusement attaqués », ordonne à la marine de bombarder. Trois avisos, les chevreuils, Savorgnan de Brazza et Dumont d'Urville, détruisent les paillotes avec des obus de 138 et de 152. Henri Martin, qui était à bord de l'aviso Chevreuil, prétend que le croiseur Suffren a participé à l'opération, allégation infondée reprise dans plusieurs ouvrages. Les tirs visent des civils qui fuient les combats, que les marins français ont peut-être pris pour des combattants à l'assaut selon Paul Mus. Les quartiers chinois et vietnamiens sont complètement détruits. D'après Paul Mus, conseiller politique de Leclerc, citant l'amiral Robert Battet qui a mené l'enquête 8 jours après, le nombre de morts se chiffre à 6 000. Estimation la plus reprise, principalement des civils. Le général Valuy estime quant à lui qu'il y a eu 300 victimes. L'historienne Georgette Elger estime le chiffre de 6000 peut-être excessif, puisqu'il représente 10% de la population de la ville, mais qu'il n'en reste pas moins que jamais au cours d'un quelconque incident franco-vietnamien, le nombre de victimes n'avait atteint une ampleur comparable. Selon l'historien Anthony James Jones, après cet acte barbare et stupide, il n'est plus question de paternalisme français, mais d'une vraie guerre pour se maintenir au pouvoir. Malgré ses proportions, ce bombardement tragique ne marque pas dans les faits le début de la guerre d'Indochine. C'est officiellement le 19 décembre 1946 qui marque le début de la guerre d'Indochine, quand les milices Viet Minh répliquent à Hanoï.
Du plus loin qu'il se souvienne, il eut ce pays dans son cœur, son pays. Du plus loin qu'il se souvienne, les gens autour de lui répétaient: moissons et foin ont besoin de paix encore bien plus que le soleil. Doux paysage modelé au long des temps par les gestes quotidiens de son peuple. Doux paysage marqué de la mémoire des larmes. Moins d'un siècle, trois fois martyrisé, doux paysage où plane à nouveau menaçante la guerre. Il aimait son pays de toutes ses forces, et c'est pour son pays qu'il est au bagne. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Le second maître de la marine, Henri Martin, a seulement osé dire non à la guerre.
Les vents ont devancé. Je suis resté à terre et dans une prison, pour avoir simplement refusé de me taire, pour avoir simplement raison contre la guerre. Martin est enfermé au bagne de Melun pour avoir écrit et diffusé des tracts contre la guerre d'Indochine. Dans ces tracts, il disait ce qu'il pensait, ce qu'il savait, la vérité.
Sommes-nous une armée de mercenaires ou l'armée de la République? Cette guerre est contraire à l'honneur de l'armée. On avait promis la liberté au Vietnam. Et le véritable honneur pour le peuple de France, c'est de ne pas se salir plus longtemps en luttant contre la liberté du peuple vietnamien. Vous nous parlez de patrimoine national, mais c'est pour vos millions que vous sacrifiez nos 20 ans.
Le gouvernement inquiet baptise les tracts « Démoralisation de l'armée ». Mais Henri Martin, debout devant ses juges, parle au nom de la nation qui à son tour se fera l'écho obstiné de sa voix, on n'étouffe pas la vérité.
Dans les dernières années de la guerre d'Indochine, 1946-1954, une affaire de justice militaire s'empare de la vie politique hexagonale et contribue à jeter la lumière sur la réalité du colonialisme. Avec d'autres intellectuels, Jacques Prévert va prendre la défense d'un inconnu, Henri Martin, né en 1927 et mort en 2015. Début 1945, un jeune homme de 18 ans, ancien résistant des francs-tireurs et partisans, FTP, membre du Parti communiste français, PCF, depuis 1944, s'engage dans la marine pour continuer, contre le Japon, le combat antifasciste. En octobre, Henri Martin se retrouve sur l'aviso Chevreuil et quitte Marseille. Il arrive à Saigon en Indochine en décembre. Là, les idéaux d'Henri Martin se heurtent aux exactions du colonialisme. Il pensait lutter contre l'occupant japonais, mais celui-ci est déjà désarmé et il assiste au bombardement de Haïphong par la marine française. Le 23 novembre 1946, après trois demandes de résiliation de son contrat demeurées sans réponse, il revient en France en octobre 1947, où il est affecté à l'arsenal de Toulon. À l'été 1949, aidé d'autres engagés, il distribue des tracts, souvent écrits par lui, imprimés à la fédération locale du PCF, qui dénonce la sale guerre en Indochine. Début 1950, à bord du porte-avions Dixmude, ces tracts incitent les marins de Toulon à refuser de partir. Le 14 mars 1950, le quartier-maître Henri Martin est arrêté à Toulon pour « entreprise de démoralisation de l'armée » et inculpé, avec son condisciple Charles Humberger, de sabotage du Dixmude.
Oui, ces tracts ont été rédigés sur ma demande.
Voyons, j'ai sous les yeux une adresse au Caire. Elle est signée un groupe de marins. C'est vous le groupe de marins ?
J'avais parlé de cette adresse à 30 de mes camarades. Et tous approuvaient comme moi la lutte engagée par les dockers contre la sale guerre. Et si j'ai pu contribuer à aider les dockers, j'en suis fier.
Avez-vous reçu une inspiration de l'extérieur pour rédiger cet acte ?
Oh, monsieur le Président, je n'en avais pas besoin. Il suffit de regarder ce qu'il reste à reconstruire dans notre pays pour comprendre que les crédits militaires sont trop lourds et qu'il vaut mieux mettre toutes ses forces au service de la paix.
Je ne peux pas vous le reprocher. Mais enfin, je ne vous comprends pas. On ne rassemble sur vous que des éloges. Vous êtes un passé remarquable. Vous êtes courageux, intelligent, discipliné, vous en donnez les preuves. Et puis soudain, vous avez changé d'attitude. Expliquez-moi les raisons de ce revirement.
Je n'ai pas changé d'attitude. Ce n'est pas moi qui manque à mes engagements. C'est le gouvernement.
En vous engageant dans la marine, vous saviez que vous auriez à obéir à des ordres, à faire la guerre.
Faire la guerre contre l'armée japonaise. Oui. Contre les femmes et les gosses vietnamiens. Non.
Difficile de condamner Martin, hein?
Que peuvent-ils faire maintenant? Par l'intermédiaire d'un provocateur, le gouvernement a poussé un pauvre type, le quartier-maître Humberger, à commettre une action de sabotage sur le Dixmude.
Maintenant, il s'agit de jeter la confusion dans les esprits en mêlant les deux affaires, pour salir Martin.
Notre constitution affirme que la France n'entreprendra jamais de guerre contre la liberté d'aucun peuple.
Alors, qui manque à ses engagements, messieurs les juges? Qui change d'attitude? Qui démoralise l'armée?
Acquittement, répondent deux juges à Toulon. Démoralisation de l'armée, 50 bagnes, répondent les cinq autres.
Cette guerre est contraire aux intérêts de la France. Tant qu'on ne voudra pas traiter, je crierai paix au Vietnam.
Le jugement de Toulon fut cassé. 50 bagnes, récite à Brest le cœur préparé des sept juges.
Un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être libre.
Au bagne avec les criminels, dit le gouvernement. Nous ne laisserons pas faire ça. Ne laissons pas défigurer par l'injustice la France des libertés. Ne laissons pas trahir les morts. Au début, il n'était que quelques-uns à connaître et à dénoncer l'infamie. Quelques-uns seulement à réfuter les mensonges, à dire la vérité, à la répandre. Martin n'est pas un saboteur. Même ses juges l'ont reconnu. Il a refusé de se taire. C'est son seul crime. Maintenant, c'est à nous de parler.
Le procès s'ouvre à Toulon le 17 octobre 1950. Il est accusé avec un autre marin de complicité de sabotage et de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée par distribution de tracts. Ses défenseurs sont l'avocat communiste toulonnais Dominique Scarbonci et l'avocat communiste du Secours populaire Paul Viennet. Il est reconnu coupable du premier chef d'inculpation mais non du second. Il était pourtant jugé par un tribunal militaire. Il est condamné par le tribunal maritime de Brest le 20 octobre à 5 ans de réclusion pour propagande hostile à la guerre d'Indochine. L'appartenance d'Henri Martin au mouvement communiste, bien que non public, ne fait guère de doute aux yeux des enquêteurs. À cette époque, un certain nombre de jeunes militants sont emprisonnés pour des actions illégales contre la guerre d'Indochine, telle la jeune Raymondienne. Mais l'affaire Henri Martin sort du lot en raison de la disproportion entre une simple activité politique, certes contraire au règlement militaire, et la condamnation à 5 années de réclusion.
On écoute, on réfléchit, on parle à son tour, on écrit. On se met à aimer Martin, à aimer son courage. Le bitume et le ciment crient un refrain obstiné, repris et multiplié d'un bout à l'autre du pays. Ce refrain monte, rompt les silences officiels, jette l'alarme. Comment dormir en paix avec ce poids sur la conscience? Un tout jeune homme reclus pour avoir défendu l'honneur de tous contre une guerre infamante. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom, Liberté. Chacun agit à sa manière. Les comédiens s'en vont sur des tréteaux porter dans tout le pays la voix du marin de la paix. Partout on l'entend, partout on lit son histoire. Partout des comités se mettent en campagne. Les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles. Et commence le cheminement, la course, l'envol des feuilles de papier. Un nom, un autre nom, une, deux, mille signatures. Elles circulent les listes, elles passent, elles s'emplissent, elles s'accumulent. Je signe pour Henri Martin, je signe, nous signons. L'histoire de Martin revit chaque soir sur les tréteaux des pavés de Paris, jusque dans les forêts quand les CRS cernent les villes. Tant et si bien que des artistes, et parmi les plus grands, font passer dans leurs pierres, leur argile et leurs toiles tout l'amour du peuple pour ce visage et le font rayonner avec plus de force encore et plus d'éclat. Au début, il n'était que quelques-uns. Maintenant, ils sont innombrables. On prend position partout. Tous ne partagent pas les idées de Martin, mais tous se sentent un peu enchaînés dans sa personne. Survivant de l'affaire Dreyfus, je me sentirais coupable envers la mémoire de Jaurès, d'Anatole France et de Zola si je restais muet devant la condamnation d'Henri Martin, écrit le professeur Adamar, illustre mathématicien. Pas un intellectuel ne peut demeurer indifférent à ce qui apparaît comme une entreprise contre cette liberté de penser que l'université a la charge de maintenir. Et de plus en plus souvent, on manifeste dans les rues. On crie aux hommes au pouvoir que le peuple de France porte le bagnard de Melun dans son cœur et qu'il ne laissera pas sa liberté en prison. Les ouvriers dans les usines forgent en travaillant leur solidarité de combat. Fait grève. Que deviendraient les libertés arrachées une à une depuis l'aube des temps, inscrites dans les droits de l'homme, au fronton de la République, si l'on restait indifférent devant la menace du bagne planant sur tous ceux qui diraient « Que la paix soit avec vous ». On débraye dans les ports, dans les usines, ici et là le plus souvent possible.
De l'arrestation au procès de 1950 et 1951, une campagne intense menée par le Parti communiste déferle dans tous les coins de France. L'agit-prop est total. Pétitions, banderoles, courses cyclistes, inscriptions et graffitis sur les murs, sur les sols, même les bancs de sable de la Loire accueillent un temps le slogan démultiplié sur le territoire « Libérez Henri Martin ». Une pièce de théâtre de Claude Martin, drame à Toulon, est jouée. Le Secours populaire édite une carte postale « Libérez Henri Martin ». Henri Martin devient alors le symbole de la lutte du peuple français contre la sale guerre d'Indochine. Des comités de défense se forment à l'initiative du Parti communiste français et de personnalités du monde politique ou intellectuel. Jean-Marie Domenac et la revue Esprit, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre qui publient, fin 1953, le livre « L'affaire Henri Martin ». Hélène Parmelin écrit une chronique quotidienne dans l'Humanité pour demander sa libération. La campagne contre sa condamnation est d'une grande ampleur. Meetings, débrayages, brochures à grand tirage. Le jugement est cassé le 19 mai 1951, puis confirmé le 19 juillet suivant. Incarcéré à la prison de Melun, Henri Martin se marie à la fin de l'année et n'est libéré que le 2 août 1953. La grève des dockers de 1949-1950 en France est principalement dirigée contre le conflit indochinois, en bloquant les expéditions de matériel militaire. La grève est alimentée par le mouvement social qui a commencé à Dunkerque en soutien à la grève des mineurs de 1948, mais a ensuite eu lieu fin 1949 à Marseille, puis dans les autres ports français. Longue par sa durée, du 2 novembre 1949 au 18 avril 1950, c'est un des conflits sociaux les plus importants de la guerre froide et l'un des plus durs de l'histoire de la corporation des dockers en France, avant de faire tache d'huile dans d'autres secteurs connexes, comme les chemins de fer ou les ouvriers des conserveries en Bretagne. Avec la mobilisation lors du procès du militaire Henri Martin, condamné le 20 octobre 1950 à 5 ans de prison pour complicité de sabotage, c'est l'un des deux axes de l'opposition du Parti communiste français à la guerre d'Indochine, selon l'historien Jean-Pierre Rioux.
Henri Martin, Raymond de Dien, Henri Martin, Raymond de Dien, veulent pas qu'on tue les Vietnamiens, veulent pas qu'on tue les Vietnamiens. Ils aiment tant la paix qu'aux juges ils sont suspects. Colombe vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté. Henri Martin a son procès, Henri Martin a son procès. A dit je suis marin français, a dit je suis marin français. Moi j'aime mon pays qu'un ministre a trahi. Colombe vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté.
Un jour Raymond s'était lancé, un jour Raymond s'était lancé. Le train de mort n'est pas passé, le train de mort n'est pas passé. Mères et fiancées, toutes voudraient l'embrasser.
Colombe vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté.
Henri Martin mis en prison, Henri Martin mis en prison. N'empêche pas qu'il a raison, n'empêche pas qu'il a raison. Et que Raymond de Dien fait trembler ses gardiens.
Colombe vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté.
On ne pourra mettre à genoux, on ne pourra mettre à genoux. Garçons et filles de chez nous, garçons et filles de chez nous. Il faudrait des prisons dans toutes les maisons.
Colombe vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté.
Henri Raymond ont des amis, Henri Raymond ont des amis. Ils ne sont pas des endormis, ils ne sont pas des endormis.
Y'en a tout l'horizon pour briser les prisons. Colombe vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté.
La grève est partie d'un refus d'embarquer des armes pour la guerre d'Indochine. Parmi les autres revendications qui motivent par la suite cette grève, étendue à la plupart des ports français, se mêlent des exigences salariales comme le slogan « Nos 3000 francs » et des mots d'ordre à la fois pacifistes et anti-impérialistes. L'action a lieu à Dunkerque, Rouen, Saint-Nazaire, Marseille, Nice, La Palisse, Bordeaux, Cherbourg, Brest et Tunis. À Marseille, elle commence le 8 novembre 1949, dure une vingtaine de semaines, puis se termine par une défaite le 18 avril 1950 et un échec important des grévistes.
Les guerres du mensonge, les guerres coloniales, c'est vous et vos pareils qui en êtes tuteur. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années de malheur. La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saïgon. Avant que cette ville s'appelle ville chimine, allongés sur les rails, nous arrêtions les trains pour vous et vos pareils. Nous étions la vermine sur qui vos policiers pouvaient taper sans frein. Mais les rues résonnaient de paix en Indochine. Nous disions que la guerre était perdue d'avance, et 100 000 Français allaient mourir en vain contre un peuple luttant pour son indépendance. Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains. Osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saïgon. Avant que cette ville s'appelle ville chimine. Après 30 ans de feu, de souffrance et de larmes, des millions d'hectares de terre défoliées, un génocide vain perpétré au Vietnam. Quand le canon se tait, vous continuez. Mais regardez-vous donc un matin dans la glace, patron du Figaro, songez à Beaumarchais. Il saute de sa tombe en faisant la grimace. Les maîtres ont encore une âme de valet.
Parmi les actes d'opposition à la guerre, on peut citer la grève des dockers menée de novembre 1949 à mai 1950 dans une dizaine de ports en France. Le jet dans un port le 14 février 1950 à Nice d'une caisse de matériel militaire de 5 mètres de haut pesant 2 tonnes et demie. Les manifestations et blocages de trains de munitions en partance pour l'Indochine, évoqués dans la chanson « Un air de liberté » de Jean Ferrat, en réaction à l'éditorial de Jean d'Ormesson dans le Figaro le 23 février 1950 à Tours ou le 23 mars à Roanne, qui débouchent en 1950 sur l'affaire Raymondienne. On peut noter également la manifestation du 17 avril 1950 à Brest qui voit l'ouvrier Édouard Mazet, militant CGT tué à l'âge de 26 ans d'une balle en pleine tête par les forces de l'ordre. René Vautier y a d'ailleurs consacré un film, Un homme est mort, relayé également par Étienne Davodeau, dans une bande dessinée où il revient sur le film réalisé par René Vautier sur la mort d'Édouard Mazet.
Je m'étais mariée, je venais de me marier, le 23 juillet 1949. Et 7 mois après, le 23 février 1950, je rentrais en prison, bien sûr, pour la première fois. C'est vrai que ça a été difficile, mais je n'ai jamais perdu le moral. J'ai gardé, grâce à la protestation populaire de France, du monde entier, de ma famille, de mes amis tourangeaux, je savais qu'ils pensaient comme moi. que l'action que j'avais menée était une action juste et qu'il fallait arrêter cette sale guerre d'Indochine.
Le 23 février 1950, Raymond Dienne, sténodactylo, participe avec des centaines d'autres membres et partisans du Parti communiste français à une manifestation improvisée à la gare de Saint-Pierre-des-Corps pour ralentir la marche d'un train militaire dont le chargement de blindés est destiné à l'Indochine. La foule occupe la voie de chemin de fer, certains manifestants se couchant sur les rails. La manifestation terminée, une femme en pantalon est signalée par les militaires du convoi aux policiers qui se rendent dans l'après-midi au siège local du parti, y trouvent seule Raymond Dienne, la reconnaissent au signalement, l'arrêtent, la font reconnaître par les mêmes témoins et l'accusent de s'être couchée sur les rails. Elle est emprisonnée à Tours. Elle est la seule manifestante poursuivie. Le secrétaire de la section des cheminots de la CGT étant, lui, libéré au bout de 3 semaines. Elle est inculpée sous le chef de « complicité de détérioration de matériel susceptible d'être employé pour la défense nationale » et est transférée au fort du A, à Bordeaux, où elle est incarcérée avec 2 ex-secrétaires de la Gestapo libérable. Défendue par l'avocate Marie-Louise Jacquier-Cachin, elle est condamnée au terme du deuxième jour du procès, le 1er juin 1950, par un tribunal militaire à 1 an de prison ferme et 15 ans de déchéance de ses droits civiques. À l'instar d'Henri Martin, elle devient un symbole de l'opposition contre la guerre d'Indochine. Elle bénéficie d'une campagne de soutien de grande ampleur, en France et dans le bloc de l'Est. Elle reçoit ainsi de nombreuses lettres de soutien depuis sa cellule de prison. Raymond Dienne est libérée à Noël 1950. Elle est ensuite, de 1953 à 1958, une dirigeante de l'Union des jeunes filles de France, branche féminine des organisations de jeunesse du Parti communiste français. Du 1er avril 1960 à juillet 1963, elle travaille comme secrétaire de Jean Breteau à la Fédération CGT de la métallurgie, puis elle est employée comme secrétaire de la Régie générale de publicité. Qui devient l'agence centrale de publicité, ACP, œuvrant pour la presse communiste. En septembre 1985, elle part en pré-retraite jusqu'à sa retraite en 1989. Avec son mari, ils se retirent en Touraine. En 2004, la médaille de l'amitié du Vietnam lui est décernée et une rue reçoit son nom à Ho Chi Minh-ville. Elle passe ses dernières années à la maison de retraite du Laurier Noble à Saint-Denis, où elle meurt le 19 août 2022. Il existe une rue du 23 février 1950 à Saint-Pierre-des-Corps.
Le 23 février 1950, la Fédération d'Indre-et-Loire du Parti communiste français apprend qu'un train chargé de véhicules blindés est attendu en gare de Saint-Pierre-des-Corps. La décision est prise. Chacun part de son côté avertir un chantier du bâtiment, une entreprise d'ameublement, les cheminots, les femmes, les jeunes, les étudiants. Quelques heures plus tard, plusieurs centaines de manifestants se retrouvent à la gare. Les manifestants entourent le train et certains se couchent sur les rails. Et au milieu d'après-midi, je me retrouve seul au siège de la Fédération, lorsque 4 policiers se présentent. On nous a donné le signalement d'une jeune femme en pantalon canadienne. Vous ressemblez au signalement qui nous a été donné. Suivez-nous. Il m'emmène immédiatement sur les lieux de la manifestation aux Épines Fortes et les militaires me reconnaissent facilement. C'est bien elle, enfin bon. Alors, le même jour, Jacques Chauveau, secrétaire du syndicat des métaux de la CGT, est arrêté, puis libéré 3 semaines plus tard. Je suis donc incarcéré à la prison de Tours. 36 jours après mon inculpation d'entrave à la circulation des chemins de fer, celle-ci se transforme en atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État qui, elle, relève de la justice militaire. Je suis alors transférée en catimini, en pleine nuit. J'arrive au fort du Ha à Bordeaux. Alors, on m'installe à une table avec 2 autres femmes. Alors, ces 2 femmes
dire, oh ben si on arrête les communistes, c'est que nous allons bientôt sortir. Et en effet, ces deux femmes, Sommer et Jesser, toutes les deux secrétaires de la Gestapo, sont sorties juste quelques mois après moi. Alors, mon procès se déroule au tribunal militaire de Bordeaux les 31 mai et 1er juin 1950. Au cours de l'audience, le président du tribunal interroge le conducteur du train, Monsieur Souedet, un cheminot communiste qui conduisait la locomotive, et le président du tribunal l'interroge en lui disant « Vous auriez pu jeter un jet de vapeur brûlant sur les manifestants. » Et ce camarade cheminot répond « J'entends bien, monsieur le président, mais je conduisais une locomotive électrique. » Alors, grand fou rire dans la salle du tribunal. Je suis donc condamnée à 1 an de prison ferme et privée de mes droits civiques pendant 15 ans. Le 1er mai, le 14 juillet, les Bordelais manifestaient aux abords de la prison. Malgré les hauts murs, j'entendais leurs cris « Libérez Raymondien, libérez Raymondien !» Je vous assure, ça faisait chaud au cœur. Le 24 décembre 1950, le directeur de la prison m'annonce ma libération. La nouvelle de ma libération s'est très vite répandue. À chaque gare, sur le chemin du retour, les amis et camarades m'attendent sur le quai pour partager avec moi cette victoire de la paix et de la liberté. À Tours, difficile de descendre, le quai est envahi, c'est l'euphorie, et tous ensemble, en cortège, nous nous rendons à la Bourse du Travail. Alors situé, ironie du sort, juste en face du commissariat de police. Cette manifestation du 23 février 1950 ne fut pas seulement celle de Raymond Bien, mais bien celle de plusieurs centaines de Tourangeaux qui, spontanément, voulurent exprimer leur volonté de mettre fin à cette sale guerre du Vietnam.
Henri Martin, Raymond de Dien, Henri Martin, Raymond de Dien, veulent pas qu'on tue les Vietnamiens, veulent pas qu'on tue les Vietnamiens. Ils aiment tant la paix qu'aux juges ils sont suspects.
Je vous propose de clore cette émission comme nous l'avons ouverte, c'est-à-dire avec un poème de Jacques Prévert, toujours extrait du recueil « La pluie et le beau temps ». Étranges étrangers. Étranges étrangers, kabyles de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie. Boumians de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, tunisiens de Grenelle, embauchés débauchés, manœuvres désœuvrés, polacs du Marais, du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou du Cap Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez, esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir, dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et les bombes incendiaires, labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville. Vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez.
acabó, se acabó. La paciencia se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, tomaremos el poder. Y usted dejará el poder, porque es que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar.
¡Viva!
Y que viva el mar, y que viva el mar.
¡Viva!
Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación,
vivan las Fuerzas Armadas de Liberación.
Ahí viene la fuerza del pueblo. Cuidado, cuidadito. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, acoruemos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
Lo juro que se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, tomaremos el poder, que sí, tomaremos el poder. Y usted dejará el poder burgués. Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP.
¡Viva!
Que vivan las FARC, que vivan las FARC.
¡Viva!
Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Se acabó, se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
La guaracha se acabó. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
La guaracha se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Cauchemar, le plus terrible des ennuis. Je suis le père, la mère, l'enfant, je suis Dieu, je le dis. Et
déjà ventre et invente les problèmes entre les hommes et la nuit. Et quand tu dors, si tu rêves pas de soucis, je passe tes rêves, tu les oublies. Je suis ce qui lutte contre toutes tes envies. Je suis le mélanome qui s'accroche à ta vie. J'ai beau être sympa chez les bigots, les instants sont mon ostrogo. Oh, regarde ma loi, l'amour n'est rien, tu l'aimes. Je passe et puis plus rien. Dieu est amour, souvent on ne supporte pas que l'âme sœur. Si la tienne est blanche, sois d'une autre couleur. Ce soir, je suis plein comme une barrique. J'aime l'amour triste et le vin tard. Venez me voir demain pour parler avec moi de choses qui fâchent, de l'amour, de l'art et Dieu. Ça sert à quoi? Ce soir, je suis vide comme une prière. L'amour triste, celui d'hier. J'ai porté mes espoirs en croix. Les choses qui fâchent, l'amour et l'art. Mon Dieu, je les prends pour moi. Conjugué au passé, je me défends du progrès chez les petites gens. Diluer les esprits, c'est du gâteau. Je suis le roi du placebo. Miracle par millénaire, je deviens suffisant. Plus je parle, moins je mens. Tous les jours, je me promène parmi les hommes. Et je dis, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas la peine de me prier, car je suis tous les jours. Je me promène parmi les hommes. Et je dis, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas la peine de me prier, car je suis tous les jours. Je me promène parmi les hommes. Et je dis, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas la peine de me prier, car je suis le pire cauchemar. Le père.